Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Je te rappellerai que...
1,3 milliard de dollars.
C'est beaucoup, beaucoup d'argent.
À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou.
Alors Yves, il y a 130 cadres nommés par Québec qui gagnent plus que le premier ministre.
En fait, si tu regardes ça, là, c'est comme une équipe de hockey, la première ligne là, d'attaque, là, c'est Charles Raymond au centre avec 550 000 de salaire. À droite, Sophie Brocheux, alliée droite, 598 560. Guy Leblanc, à l'aile gauche, 500 000, puis à défense. Louis Morissette de l'Autorité des marchés financiers, 465 000. Et Catherine Dagenais à gauche de la défense, 453 952. En fait, l'idée, là, c'est qu'à chaque année, le gouvernement, là, depuis 2015, là, dévoile toujours autour du 15 000 les salaires des cadres, notamment santé, société d'État, les sous-ministres, etc. Alors là, tu as au moins 161 dirigeants qui ont touché un salaire supérieur à 200 000. Puis tu as plus de 134 qui sont nommés qui gagnent plus que le PM. Mmh. Je te rappellerai que le PM a gagné, le premier ministre Legault, là, 205 783 en salaire en 2020-2021. Et écoute, c'est quand même fascinant de voir que... Puis là, on parle juste des salaires. Hein, on parle pas de toutes les primes, les bonnies, parce que là, c'est un peu plus complexe parce que ça varie d'une personne à l'autre. Là. Mais il en demeure pas moins que tu as quand même des cadres qui gagnent plus que le PM. Et on s'entend-tu dire que le PM, là, il gère toute une entreprise qui s'appelle Québec.
Ben oui, mais j'aime bien ta métaphore sur le hockey, parce que toi puis moi, l'entraîneur du Canadien, il gagne beaucoup moins que ses joueurs vedettes. Je suis convaincu. Puis quand tu réalises un film, le gars qui va réaliser le prochain Top Gun, il a gagné beaucoup moins que Tom Cruise. C'est sûr et certain. C'est un peu comme ça. Finalement, l'entraîneur chef qui est François Legault gagne moins cher que ses joueurs étoiles.
Oui, puis c'est quand même le PDG de l'État du Québec, là.
Oui, oui.
Ça fait que moi, en tout cas, je trouve ce qui est important, je pense, puis on vient tout le temps au salaire là, des bonnies des sociétés d'État, c'est à un moment, il va falloir mettre probablement un plafond à leur rémunération. Deuxième chose, c'est de savoir c'est quoi leurs critères. C'est clair, précis de quand ils ont des bonnies. Bon, dans le cas de la Caisse de dépôt, c'est assez clair. Mais tu sais, dans d'autres cas où tu es une société d'État avec un certain monopole, tu sais, quand tu as des augmentations de prix de 3 à 4 % à SAQ, tu comprends-tu, où tu vas aller magasiner où pour ton vin?
Oui.
Là, ça augmente effectivement les revenus, ça augmente les profits, puis ça permet effectivement d'avoir des bonus plus intéressants pour à la fois les hauts dirigeants puis les cadres de la société d'État.
Écoute, Yves, je veux revenir sur le prix de l'essence. L'idée là, du PQ de plafonner le prix de l'essence à 1,60 $ le litre, ça a fait jaser hier en maudit. Puis là, l'Institut économique de Montréal, ils disent, coudonc, ils vivent sur quelle planète? Ils vivent dans un film de Walt Disney, eux autres?
En fait, l'idée, ce débat-là, il est revenu depuis, il revient à tous les années avec le prix de l'essence, mais je pense que la réalité, là, c'est qu'au-delà de, c'est vraiment les pétrolières qui sont l'enjeu. Écoute, quand tu regardes, mettons, là, ouais, 16 000 2022, là, c'est quand tu regardes, mettons, un prix à la pompe à 2,15 $, là, presque, le pétrole en prenait 91 sous le litre. Les marges de raffinage, c'était 50 sous. Puis après ça, les taxes en prenaient 60. Mais si tu regardes globalement, le pétrole puis les marges de raffinage, là, c'est presque 1 $ quelque chose, de 1,25 $ que prenaient les pétrolières. Fait que c'est clair là, que les pétrolières, là, ils empochent en masse de ce temps-ci, avec des marges de raffinage à presque 50 cents sur le 2,15 $. Là, c'est énorme. Et là, je sais pas si tu as vu ce matin l'article qu'on a publié sur le jackpot des Saoudiens.
Ben oui. Puis je disais ça tantôt à Gilles Proulx. J'ai hâte d'avoir une auto électrique, pas parce que ça va coûter moins... oui, parce que ça va coûter moins cher à la pompe, mais aussi parce qu'on n'enverra pas notre argent dans ces pays-là qui se foutent des droits de la personne puis des droits de l'homme.
Et la compagnie là, Aramco, là, qui appartient à les Saoudiens puis qui a en grande partie aussi à l'État lui-même, là, écoute, ils ont augmenté là, leur bénéfice net. Là, écoute, il s'est passé de 39 milliards alors que c'était 21 milliards. Écoute, une progression énorme. Et écoute, eux autres, là, quand ils font des profits, ils versent à l'État. Tu comprends-tu? Or, le ministère des Finances saoudien là, a vu sa croissance là, augmenter de 36 %. Écoute, ils ont un surplus budgétaire de 15 milliards US. Et cette compagnie-là, là, Aramco, là, qui est la plus grosse compagnie de pétrole dans le monde, et en plus, ça a détrôné maintenant Apple sur le marché boursier. Là. Écoute, ils sont l'entreprise la plus valorisée au monde actuellement avec, écoute, tiens-toi bien, là, je ne calcule même plus, là, 2 430 milliards de valeur boursière.
Mais ça, c'est une entreprise privée, ça? C'est une entreprise qui appartient au régime saoudien?
En fait, l'idée, c'est qu'elle est maintenant, depuis 2019, ils sont à la bourse. Donc, puis n'oubliez pas, c'est le plus grand exportateur de pétrole dans le monde. Évidemment, l'actionnariat, une grande partie, c'est évidemment l'État saoudien. Et imagine-toi, ils vont verser là en dividendes à leurs actionnaires au deuxième trimestre 18 milliards US. Alors,
dividendes. Tu sais, tant qu'envoyer de l'argent, moi, là, j'aime bien envoyer de l'argent à Hydro-Québec avec un char électrique. Puis c'est Hydro-Québec qui vont prendre cet argent-là plutôt que de l'envoyer en Arabie saoudite.
Écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Puis là, tu vois aujourd'hui, bon, on est tous d'accord pour dire que la transition énergétique, ça va prendre du temps. Là. Présentement, là, tu sais, ce qu'on appelle les énergies alternatives, là, couvrent même pas 10 % de ce qu'on a de besoin en énergie. Fait qu'avant qu'on arrive à 50 % là, écoute, probablement, on va être encore avec une voiture des Flintstones. Non, mais sérieusement, avant qu'on ait tous un auto électrique, oui. Ça va prendre un bout de temps. Fait qu'on va devoir vivre avec un prix de l'essence. Mais je pense qu'il va y avoir un moment, les États à travers le monde. Tu te rappelles, Biden là, avait déjà envisagé de regarder pour les taxes, de diminuer les taxes fédérales sur l'essence.
Là, il faut en produire des auto électriques parce que la demande est plus forte que l'offre. C'est une bonne nouvelle. Les gens veulent rouler en auto électrique. Malheureusement, il n'y en a pas. L'offre n'est pas là. Alors, le Québec est la risée de la planète en matière d'immigration, dit le Conseil du patronat du Québec.
Ben Richard, je pense que tous les deux, on va parler de ça encore pour les 10 prochaines années. Là. Écoute, quand tu le sais là, que présentement, là, il y a 1,4 million d'emplois à combler d'ici 2026, là, c'est sûr qu'on pourra pas combler ça avec juste les Québécois de souche. Là. C'est clair qu'on va avoir besoin d'immigration. Et là, l'enjeu important, c'est notre contrôle sur l'immigration. Et que, quand même que le patronat dit, écoute, faut augmenter les seuils de 80 000 à 100 000, la réalité, là, c'est que la bureaucratie est en folie. T'es même pas capable d'avoir même un numéro. Tu comprends-tu? Nous, on a un gars qui s'appelle Albert Valera. C'est un immigrant investisseur, un Américain qui parle très bien français. Puis là, la question, c'est que lui, là, il peut toujours pas avoir son permis de, tu sais, pour pouvoir sa résidence permanente pour pouvoir investir ici au Québec. Écoute, il vient juste d'avoir son numéro. Puis, ça fait des mois qu'il attend. Tu sais, il a son numéro dans ses mains, là, puis il n'y a personne qui l'appelle.
C'est fou. C'est tout croche.
C'est tout croche. Et l'idée, là, c'est que tu sais, le patronat peut tu sais, crier puis dire au gouvernement, on doit rajouter entre 80 000 et 100 000, revoir les programmes de formation, tu sais, assurer que... Tu sais, je te donne un exemple. Là, présentement, là, ce qui est fascinant, là, mettons qu'un immigrant qui est ici au Québec, qu'un permis de travail là, qui est employé par, mettons, un restaurateur, puis mettons, l'entreprise s'appelle A, bien, imagine-toi, il ne peut pas aller travailler pour un même restaurateur qui s'appelle B, à côté.
Ah! Oh, c'est de la bureaucratie zélée, là. Il va falloir que le système s'assouplisse un peu. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'est trop rigide, Yves.
Oui, puis l'autre affaire, c'est qu'imagine-toi, au cours des deux dernières années, dans le secteur manufacturier, là, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, on est perdu 18 milliards au Québec de contrats. Là. Alors que. Donc, tu sais, c'est un enjeu. J'ai l'impression que, bon, on en a parlé tous les deux. Là. En 2015, là. C'était qui disait qu'il n'y aurait pas de pénurie d'emploi? Ben, c'était le ministère du Travail qui avait dit, hey, écoute, il n'y a aucun danger. Ils ne voyaient pas, eux autres, la pyramide inversée, qu'il y aurait moins de jeunes, qu'il y aurait plus de retraités. T'sais, on est tout un peu à blâmer. On ne peut pas toujours blâmer le gouvernement. T'sais, le patronat a son rôle aussi à jouer là-dedans. Pourquoi eux autres n'ont pas investi dans l'automatisation depuis 10 ans? Tu comprends-tu? S'ils savaient que les données étaient là. T'sais. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec une bureaucratie en folie, des entreprises qui sont pas capables, tu comprends-tu, de livrer des contrats parce qu'il manque de main-d'œuvre. Là, tu as aussi la surenchère des salaires parce qu'évidemment, tu as une entreprise qui manque de main-d'œuvre, ben, ils vont devoir augmenter les salaires de ceux qui vont venir, qui sont existants. Puis les programmes de formation, ben là, on est en retard de plusieurs années. Donc, tout un travail de rattrapage.
Manque de main-d'œuvre, ça fait que les employés qui sont là doivent travailler et mettre les bouchées doubles parce qu'ils doivent faire la job que ceux qui sont pas là. Puis là, ils sont épuisés, ils partent en burn-out. Écoute, c'est la spirale vers le bas. Vraiment, c'est un grave problème au Québec et au Canada. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain.
On se reparle demain. Bye. Bye.